Les musiciens en leur temps, une émission proposée par Daniel Cabanis.
Nous poursuivons avec Manon Lescaut. L'histoire de Manon Lescaut a inspiré plusieurs compositeurs qui se sont tous fondés sur l'histoire du chevalier des Grieux et de Manon Lescaut de l'abbé Prévost, paru en 1731. Ce ne sont pas moins Jules Massenet, dont la Manon Lescaut est unanimement reconnue comme excellente, que le compositeur Daniel Aubert, dont nous écoutons le duo du deuxième acte. Ainsi que le compositeur irlandais Michael William Balfe sous le titre de The Maid of Artois, dont nous écoutons Young Moon Over the Mountains, chanté, ça n'est pas son répertoire habituel, par Cecilia Bartoli. L'opéra de Puccini, annoncé comme un drame lyrique en 4 actes en italien, est le dernier en date. C'est en fait le 3e opéra de Giacomo Puccini sur un livret de Luigi Illica, Giuseppe Giacosa et Marco Praga. Ils sont donc mis à 3. Et musicalement, à partir d'une esquisse de Ruggero Leoncavallo, et encore un complément de Domenico Oliva. Dans une moindre mesure, l'éditeur Giulio Ricordi et le compositeur lui-même contribuèrent à la finalisation du livret. L'opéra fut composé entre l'été 1889 et octobre 1892 pour être créé le 1er février 1893 au Teatro Regio à Turin. L'histoire est simplifiée évidemment dans chacun des livrets. Une jeune fille est envoyée au couvent par ses parents, fait des rencontres, éprouve des sentiments sincères ou non, ou vend ses charmes. Nous entendons Anna Netrebko et Jonas Kaufmann dans les retrouvailles au couvent.
Cela n'est pas changé son cœur. Devenu sans pitié pour une folle erreur. Pourvu qu'il n'ait pas appris à maudire. Thank you.
finalement, après de grandes mésaventures, des succès, pour faire simple, Manon est arrêtée, condamnée à la déportation, laissant son amoureux désespéré. Qu'il l'ait accompagnée dans son exil, version Puccini, et nous allons entendre là la mort de Manon chantée par Maria Callas. De tous les protagonistes, c'est la seule qui paye de sa liberté, puis de sa vie, ses erreurs, qu'elle n'a évidemment pas faites toute seule. Passons plus près de nous dans le temps à Loulou, l'opéra dodécaphonique d'Alban Berg. Loulou est l'une des grandes figures mythiques de la création artistique du XXe, imaginée par le dramaturge allemand Frank Wedekind, et immortalisé aussi au cinéma en 1921 par Georg Wilhelm Pabst, avant l'opéra d'Alban Berg. La pièce présentée sous le titre Loulou est la réunion de deux drames de Wedekind, L'Esprit de la Terre, Erdgeist, publié en 1895, qui retrace l'ascension sociale de Loulou jusqu'à la mort de son quatrième mari, le docteur Schön, et La Boîte de Pandore, Die Büchse der Pandora, tragédie de monstres, édité en 1904, consacré à la déchéance et à la mort de l'héroïne. Pour Wedekind, Loulou n'est pas un personnage réel, mais la personnification de la sexualité primitive, je le cite, qui provoque le mal sans en avoir conscience. La mission de Loulou, créature sans âme, est clairement exprimée dans le prologue de la pièce. Il dit « Elle a été créée pour faire le malheur, pour attirer, séduire, pour empoisonner et pour tuer, sans jamais laisser une trace. » Dans l'opéra, les mêmes chanteurs incarnent à la fois les victimes de Loulou et ses clients au dernier acte. Et ainsi, on a les correspondances. Le professeur de médecine, le peintre, le nègre, Schön, Jacques l'éventreur. Berg donne ainsi à son opéra une forte unité dramatique fondée sur ce qu'un analyste a appelé le fil interprétatif qui relie les deux parties de l'œuvre. Autrement dit, l'ascension de Loulou, puis sa déchéance finale. Le dernier acte est le grand châtiment. La revanche du monde des hommes qui, après avoir été détruit par Loulou, se venge en la dégradant par la prostitution et la tuant. Et on peut considérer que la relation Jacques l'Éventreur et Loulou est sous-tendue par une sorte de parallélisme symbolique. Pour les deux personnages, la possession sexuelle implique l'anéantissement de l'autre. C'est une déchéance morale pour les victimes masculines de Loulou, la mort pour les victimes féminines de Jack l'Éventreur. Nous entendons ici la remarquable Barbara Hannigan. Je vous rappelle, on en avait parlé, qu'elle est par ailleurs l'égérie du compositeur britannique contemporain George Benjamin.
Thank you.
Dans plusieurs mises en scène de Loulou, on accentue le côté sordide du personnage en lui imposant des postures difficiles à tenir en même temps qu'on chante, des tenues qui ne ménagent pas sa pudeur, et on sait que pour certaines cantatrices, c'est une difficulté supplémentaire parce qu'elle n'a pas nécessairement envie de s'afficher de la sorte. Cet opéra marque incontestablement un tournant parce que la violence la plus gratuite est affichée sans qu'on sache exactement ce que l'auteur de la pièce, tout comme le compositeur, a vraiment voulu démontrer. Car c'est une catastrophe universelle dont il ne ressort qu'un très 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 grand désespoir. On peut penser que l'époque, l'entre-deux-guerres, allait mal, qu'Alban-Berg était très préoccupé, perturbé par l'évolution politique qui se produisait, et que ce malheur général est traduit par le drame intégral que représente Loulou.